Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Pierre Faucillon. Porter son regard cette semaine sur l'essai de Jean Cocteau paru en 1947 sous le magnifique titre « La difficulté d'être » et dans lequel on trouve ce passage où le poète s'insurge avec finesse et sévérité contre sa propre mièvrerie juste après avoir convoqué des souvenirs d'enfance. Mais assez dit, s'attendrir embrouille l'âme. On ne communique pas davantage cette sorte de souvenir que les épisodes d'un rêve. Il est bon de se répéter que chacun de nous en abrite d'analogues et ne nous les impose pas. Si je me suis un peu trop attardée à geindre, c'est que ma mémoire, n'ayant plus de lieu, devait emporter son bagage. Mais j'ai vite bouclé mes valises et je n'en parlerai plus. Sociologue et directrice d'études à l'EHESS, notre invitée a enseigné en Israël, en Allemagne et aux États-Unis avant de s'installer dans l'Hexagone. Cet esprit pénétrant analyse les émotions à travers le prisme des sciences sociales, faisant émerger l'effrayante et si contemporaine idée de capitalisme émotionnel. Le système économique prévalent régit sourdement nos rapports à la démocratie, à l'amour et au bonheur. Désenchantée, c'est un peu ce en quoi consiste la sociologie, affirme notre invitée, auteur de plusieurs ouvrages remarquables. Son dernier livre est paru en octobre dernier aux éditions Premier Parallèle, sous le titre « Les émotions contre la démocratie ».
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Eva Illouz.
Bonjour.
Première question à celle qui a publié avec Edgar Cabanas « Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ». Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde? Et vous remarquerez que j'emploie le mot « contente » et non pas « heureuse ».
Vous avez raison de faire la différence. Oh, écoutez, je dirais que je suis souvent contente, pas forcément toujours. Je pense que la vie m'a fait beaucoup de cadeaux et elle en a repris aussi parfois. Mais pour avoir, comme beaucoup de gens, vécu des maladies, retrouver la santé et le sentiment de la vie. Je dois dire que, dans l'ensemble, je dirais que ça a été un grand cadeau.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
Ça, par contre, très mal.
Ah.
Je suis ma meilleure ennemie.
Ah bah, bienvenue dans cette émission.
Mais ceci dit, être son ennemi, c'est pas que mauvais, ça fait travailler intellectuellement, ça fait travailler psychiquement et moralement aussi.
Il n'y a pas eu de progrès dans votre relation à vous avec les années?
J'aurais aimé pouvoir dire que oui, mais non.
Ce qui vous donne envie de vous lever, Eva Illouz, en plus de votre café, et je cite, car je suis un chic type, c'est Guillaume Herner et la matinale de France Culture. Pour y découvrir, nous écrivez-vous les mauvaises et les bonnes nouvelles du monde. Il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes.
Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait que le monde est vivant. Et comme je suis sociologue, j'aime comprendre le monde. Donc je suis toujours à l'affût de ce qui va me faire comprendre le monde un peu mieux.
Est-ce que vous avez entendu des bonnes nouvelles récemment? Des choses qui nous font nous réjouir?
Oui, il y a une nouvelle qui m'a réjouie. J'ai entendu que les partis d'opposition israéliens préparent une sorte de grève générale. C'est la première fois dans toute l'histoire d'Israël qu'il y a un mouvement pareil. Et ça m'a réjoui beaucoup.
Eva Illouz, quand on est sociologue, j'imagine qu'on analyse sans cesse le monde en dégageant des systèmes, des règles, des phénomènes. Arrivez-vous à vivre un événement sans passer par son examen?
Vous savez, j'ai envie de dire que examiner les choses, c'est pas ne pas les vivre, au contraire. Parfois, quand on comprend plus un art, quand on en comprend les règles, on en jouit beaucoup plus. Je regrette par exemple très souvent de ne pas avoir suffisamment de savoir musical pour prendre encore plus de plaisir à la musique. Et donc je sais qu'il y a une sorte de dichotomie qu'on fait souvent entre le savoir ou l'examen et la capacité d'être immergé de façon immédiate et spontanée dans quelque chose. Mais je dois vous dire que c'est pas du tout une distinction que je partage. Au contraire, parfois, quand je ne connais pas les choses, j'ai tendance à rester plus extérieur.
D'accord, c'est un fonctionnement, un tempérament. Un autre désir au réveil, c'est le manuscrit en cours. Je vous cite, c'est l'écriture qui fait que je vais en robe de chambre à l'ordinateur pour continuer de travailler sur une idée que j'ai eue la veille. Alors la question que je pose à tous ceux qui écrivent, ne ressentez-vous jamais de paresse ? Est-ce un processus totalement exempt de douleur, l'écriture ?
Je sais que c'est peut-être pas très crédible, mais pour moi, c'est exempt de douleur. Il y a des moments qui sont plus ardus que d'autres. On fait plus d'efforts que d'autres. Le début, par exemple, est beaucoup plus ardu. Quand il faut comprendre une problématique, quand il faut bien comprendre, bien resserrer une question, ça demande plus d'efforts que la suite. Mais le seul moment, je crois, dans la journée où je ne suis pas, je ne bataille pas avec le monde et avec moi-même, c'est quand j'écris. C'est des moments de grande paix.
Puis l'écriture, c'est le seul endroit où on a un pouvoir total. Comme Démiurge, c'est-à-dire que dès qu'on est dans le monde, tout peut arriver. Puis il y a l'autre, il y a l'altérité, mais dans l'écriture, on est le maître de la feuille.
On est le maître et en même temps, enfin, ce que j'aime, c'est justement quand je suis surprise. La surprise est un élément fondamental pour moi de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut absolument découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas prévues. Donc dans ce sens-là, non, je me sens pas forcément avoir du pouvoir. J'ai pas le sentiment d'avoir véritablement du pouvoir. Au contraire, souvent quand j'interviewe des gens ou quand je lis des livres, j'ai l'impression que ce sont eux qui s'imposent à moi. Donc c'est un peu une façon très paisible, comme je le disais, mais très apaisée, disons. Pas paisible, mais apaisée d'avoir un dialogue avec le monde et avec les autres, pour moi.
Oui, c'est assez réjouissant cette idée de surprise. Parce qu'en fait, vous examinez justement un objet et vous arrivez à comme une enquête, finalement.
Oui, enfin, pour moi, le savoir, ça consiste effectivement à ne pas découvrir ce qu'on pensait au départ. C'est pour ça que, même si je me crois être assez engagée, politiquement et moralement, j'essaye toujours d'écrire un peu contre moi-même et un peu en ne sachant pas véritablement ce que je vais dire. Et donc, pour faire de la surprise, une condition nécessaire de l'écriture. Autrement, je pense que si j'écrivais pour reconfirmer ce que je pensais au départ, j'y prendrais pas de plaisir, finalement.
Bon, alors là, j'annule toute surprise à venir, j'annonce le sommaire. Dans un instant, il sera entre autres question de croyance, de colère, de Camus, de Proust, d'Albert Cohen, de Bérengère Viennot, de Bertrand Tavernier, d'intériorité et d'Elisabeth Bishop. L'ordre du jour est sur son 31 jusqu'à 11h.
Tu sais que tu me manques tard le soir et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là. Je pourrais le cacher, mais je n'y arrive pas. Pas l'autre bout du téléphone, j'écris chansons sur toi. Pour ne pas passer pour une conne, je ne te les enverrai pas. Dis-moi s'il te plaît, si tu voulais, est-ce que tu pourrais? J'ose pas demander, peut-être que je devrais le dire en anglais. Won't you let me know? Won't you let me go? Pour une folle psychophobie, très peu pour moi. J'ai beau m'arrêter sur les erreurs, sur le passé. C'est toi que je veux et que j'attends pour me baiser. Je ne voudrais pas me transformer en sorcière. Quand tu fleuris, t'habites un goût amer. Je voulais jouer, mais maintenant j'y vois plus clair, clair. Quel enfer, les sentiments sont pénétrants. Tu sais que tu me manques quand j'en ai envie tard. qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. When you're not around, baby, I don't sleep no more. And you know that I'll never mind being your little
Yoa, le morceau Boutique Hall dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec la sociologue Eva Illouz. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans votre environnement et dans la société, dans votre environnement proche, mieux connaître les étrangers avec qui vous avez un contact presque quotidien. Vous vous interrogez sur la fraternité, c'est-à-dire que vous aimeriez les connaître, mais sans rentrer dans leur intimité.
Oui, alors, je me suis rendu compte que en fait, on est en contact avec beaucoup de gens de façon quotidienne et on ne sait rien d'eux. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être puéril, mais j'aimerais bien savoir qui sont ces gens à qui je parle tous les jours et dont souvent mon bien-être dépend. Et je pensais à cet acte très simple qu'on fait tous, qui est d'acheter quelque chose. On est à une caisse et en fait, on le fait très souvent, enfin moi, je le fais très souvent machinalement. Et puis, j'essaye maintenant de ne plus le faire machinalement, mais de le faire avec attention et de porter attention, en fait, à la personne avec qui j'interagis. Et de faire en sorte que cet étranger, finalement, me soit un peu moins étranger. Et vous avez raison, c'est lié chez moi un peu à cette préoccupation que j'ai avec la fraternité, qui est à la fois un concept politique, hein, qui fait partie du... de la devise française, qui est aussi un concept religieux. C'est un concept donc à la fois politique et à la fois théologique, quasiment. Et il me semble que c'est la meilleure façon de comprendre notre rapport aux étrangers, en fait. Mais pas seulement aux étrangers, à des semi-étrangers, comme par exemple nos voisins de palier. Alors, la fraternité est essentielle, oui, pour le lien politique, mais pas seulement. Je pense aussi que dans ma vie quotidienne, sourire ou recevoir le sourire d'un étranger peut en fait éclairer une bonne partie de ma journée. Et ça, c'est la fraternité.
Vous tenez à la notion d'universalisme, Eva Illouz, qui signifie prendre au sérieux l'idée que l'homme est le même partout et que chacun, partout, a droit à tout.
L'universalisme, pour moi, est absolument fondamental. D'abord parce qu'en tant que juive d'Afrique du Nord qui est arrivée en France, j'en ai directement, je pense, bénéficié. Je pense que le modèle universaliste français, qui est mal compris, par exemple aux États-Unis, est un modèle très puissant, très fort. Donc, personnellement, j'ai vécu dans ma chair, si je puis dire, le fait que mes professeurs au lycée me semblaient être magnifiquement indifférents à ma religion, mes origines, à la limite presque à mon genre. J'avais l'impression de n'exister que par mon cerveau dans l'école républicaine.
C'est grisant.
Oui, absolument. Et puis, comme j'ai aussi beaucoup vécu en Israël, et que Israël n'a pas achevé, je dirais, sa démocratie universaliste. Israël s'est voulu, pour des raisons tout à fait compréhensibles, mais s'est voulu être une démocratie pour les Juifs et une démocratie composée de Juifs, pour des raisons historiques, encore une fois, tout à fait compréhensibles. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un déficit considérable.
Vous analysez bien, d'ailleurs, la complexité de cet État dans Les émotions contre la démocratie, votre dernier ouvrage.
Oui, et d'ailleurs, la fraternité, pour moi, c'est le sentiment et l'émotion de l'universalisme. On ne peut pas comprendre l'universalisme sans comprendre qu'il est accompagné d'une structure émotionnelle, et cette structure émotionnelle, c'est la fraternité.
Le corbeau croasse et l'herbe croît, le crapaud coasse et moi je crois.
J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix. Je crois en l'autre, je crois en moi.
Le titre « Je crois » de Claude Nougaro, pour introduire ce que vous aimeriez changer dans la société, Eva Illouz. D'abord, le sérieux avec lequel les gens traitent leurs croyances, leurs mythes, leurs valeurs qui leur semblent absolues, et justement le manque de croyances, le cynisme, l'idée que l'on va de plus en plus calculer les choses, trouver des algorithmes pour tout.
Alors, oui, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'aimerais changer dans la société. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses que j'aimerais changer, mais comme j'ai vécu entre deux sociétés, il y a deux choses opposées que j'aimerais changer. La première, c'est le sérieux avec lequel les gens traitent leurs croyances et leurs mythes, il faut bien le dire, parce que très souvent ces croyances reposent sur des mythes. Et ils font de leurs mythes des valeurs absolues. Par exemple, j'ai vécu à Jérusalem, et Jérusalem est une ville où beaucoup de groupes prennent leurs croyances très au sérieux, tellement au sérieux que ça peut provoquer des guerres parfois. Prenez par exemple l'idée qu'un morceau de terre est plus sacré qu'un autre morceau de terre, ou qu'un morceau de pierre est plus sacré qu'un autre morceau. Alors, je ne veux pas évidemment dire que les croyances ou le sacré que les gens tiennent pour très important est quelque chose qu'on ne doit pas respecter. On doit le respecter, mais on doit aussi y mettre des limites. Il me semble que nos sociétés, la possibilité de cohabiter ensemble, elle part de l'hypothèse qu'on doit chacun traiter son sacré avec mesure. Donc ça, si vous voulez, c'est une chose que j'ai apprise en vivant en Israël, à Jérusalem en particulier. Mais en vivant en France, ou disons en me promenant beaucoup en Europe et aux États-Unis, je dirais que là, par contre, ce sont des pays qui souffrent peut-être d'un manque de croyance, manque de sacré. On y voit beaucoup de cynisme. Entre autres, je pense on peut expliquer une partie du populisme, du phénomène populiste, comme étant l'effet d'une désaffection de la croyance dans la classe politique, dans les institutions politiques. Parfois, d'ailleurs, c'est justifié, j'ai envie de dire. On vit aussi dans des sociétés où on est de plus en plus dans le calcul de ses actes, de ses pensées. Et j'ai l'impression que parfois nous sommes devenus de grandes machines à calculer le coût et les bénéfices de nos actions. Et donc, là, si vous voulez, ces sociétés me rendent un peu nostalgique d'un temps, s'il a existé, où on était peut-être un peu moins sophistiqué, mais où on agissait de façon un peu plus intuitive. Et j'aurais aimé aussi qu'on ait un peu plus le sentiment de la transcendance. La transcendance, ça ne veut pas dire le religieux.
Oui, on peut être athée et avoir une vie spirituelle.
Exactement, et avoir en fait envie de vivre pour quelque chose. Donc c'est cette transcendance aussi qui me semble faire défaut. Donc il y a ces deux choses opposées que j'aimerais changer.
Eva Illouz, dans Les émotions contre la démocratie, vous analysez les émotions clés sur lesquelles joue le système économique actuel, et qui sont la peur, le dégoût, le ressentiment et l'amour. Vous analysez ces émotions avec énormément de justesse et ce qu'elles provoquent chez chacun d'entre nous. Et je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous seriez, je sais que c'est pas votre intention, mais est-ce que vous seriez capable de manipuler là, par exemple, en connaissant tous ces ressorts, en les ayant tous analysés, est-ce que vous pourriez là me manipuler en jouant sur une de ces émotions?
Alors, vous manipulez-vous personnellement? Je crois pas. En plus, j'en ai pas envie.
Très vexant.
Par contre, je pense que des groupes d'experts en communication politique le font constamment. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, dans ce livre, je reviens à une idée qui est très familière et qui avait été désertée par les sociologues, sans doute à raison, qui est l'idée que on ne sait pas toujours pourquoi on choisit ou on fait ce qu'on fait, et que parfois on choisit des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts. C'est parce que finalement il y a aujourd'hui un vaste groupe de gens dont c'est la vocation de précisément nous manipuler.
Et vous citez d'ailleurs Anna Arendt à ce sujet. Parfois on adhère à des choses presque de l'ordre de l'irrationnel.
On adhère essentiellement, et Anna Arendt avait précisément peur que le totalitarisme se caractérise par la capacité des masses à non plus croire en leur sens, à non plus croire dans la vérité objective, mais à croire en leur imagination. Et en fait, j'ai envie de dire que nous y sommes, puisque l'Internet crée des mondes alternatifs qui sont parfois beaucoup plus réels que la réalité elle-même.
Le morceau « Angry » de Paul McCartney que nous avons choisi pour introduire ce qui vous fait vous engager, Eva Illouz, la colère.
Oui, effectivement. Je crois que j'écris un article dans le journal. J'écris beaucoup dans le journal d'opinion à Haaretz, qui est l'équivalent du Monde en Israël. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai écrit, c'était parce que quelque chose m'énervait profondément. La colère est, je pense, une très bonne motivation pour l'engagement.
Je voudrais parler du langage avec vous, Eva Illouz. Vous êtes née au Maroc, votre langue maternelle est le français, vous pensez en anglais, tous vos livres publiés en France sont des traductions. Lorsque vous grondez vos enfants ou leur dites des mots tendres, c'est en hébreu. Est-ce que vous vous y retrouvez entre toutes ces langues et êtes-vous différente dans l'une d'elles ?
Alors c'est drôle, parfois je me retrouve pas, vous avez tout à fait raison. Souvent je n'aime pas être interviewée parce que des mots me viennent beaucoup plus facilement dans une langue et pas dans une autre. Donc je ne m'y retrouve pas forcément, j'arrive pas très bien à cloisonner, il y a des passages de l'une à l'autre. Mais alors est-ce que je suis différente ? C'est drôle parce que j'ai une amie qui m'a entendu parler, avec qui je parlais anglais uniquement, et qui m'a entendu une fois parler français. On s'est retrouvés à Paris, et elle me dit « Tu es beaucoup plus heureuse quand tu parles français. » Et beaucoup plus... Et c'est la première fois que je suis devenue consciente qu'effectivement, je crois que je suis un être différent, effectivement, dans ma langue natale, qui est le français. Ah oui, mais c'est pas... Parce qu'une langue, c'est aussi des codes qui viennent avec. Je pense que c'est la langue dans laquelle je me pose aussi le moins de questions. J'ai l'impression de connaître les codes d'interaction.
Vous avez fait votre cette citation de Camus, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Vous essayez vraiment de bien nommer les choses, c'est ce que vous devez faire dans les sciences sociales. Et là, Eva Illouz, vous vous interrogez par exemple sur la liberté sexuelle et amoureuse. Il y a cette question, est-ce que les femmes sont aussi libres que cela ? Ou encore, vous interrogez sur la loyauté à un groupe quand ce groupe est minoritaire ?
Oui, alors... Pour moi, mon travail de sociologue, ça consiste souvent à essayer de bien nommer les choses. Et je vais prendre l'exemple du concept de démocratie juive. J'en ai parlé. Démocratie juive, qui est un concept avec lequel Israël s'est défini. Et si on adopte parfois les mots tels qu'ils sont, les expressions telles qu'elles sont, on ne comprend pas la réalité. Et donc, il faut les renommer. Et je crois qu'un des buts du travail de sociologue, pour moi, c'est de bien comprendre s'il y a une adéquation entre les mots qu'on utilise et la réalité sociale à laquelle ils font référence. Ça a été pareil avec mon étude sur l'amour, puisque on parlait beaucoup de liberté sexuelle, qui était, elle, censée mener à l'égalité. Or, ce que je voyais dans mes interviews, dans mon expérience, c'est une inégalité assez profonde entre les hommes et les femmes, qui restait encore assez forte. Donc, il a fallu que je renomme, si vous voulez, ou que je reconceptualise cette idée de la liberté sexuelle. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est qu'on travaille avec des concepts qui sont travaillés par la société elle-même et qui souvent ne désignent pas les phénomènes qu'on veut analyser, qu'on veut comprendre, et qui ajoutent en fait à de la confusion.
Et d'ailleurs, vous soulignez dans vos études sur l'amour que vous vous intéressez aux couples hétérosexuels, puisque c'est là qu'il y a le plus d'inégalités justement entre les membres. Les couples homosexuels ont une plus grande égalité entre eux.
Oui, alors, si vous voulez, la différence, elle est toujours recodée en inégalité. Pas toujours, mais très souvent. C'est aussi la raison pour laquelle je suis universaliste. C'est parce que je pense qu'il est extrêmement difficile de tenir les deux bouts de la différence et de l'égalité. Et quand, si on veut l'égalité, il faut de la similarité. Et il me semble que les couples homosexuels, qui par définition ne reposent pas sur cette différence de sexe et de genre, ces couples homosexuels sont en quelque sorte à l'avant-garde de l'hétérosexualité et montrent ce que c'est des couples où la différence sexuelle ne joue pas de rôle majeur dans l'amour qui lie deux personnes.
Justement, parlons d'amour.
Qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendue ou respirée jadis, le soit de nouveau, à la fois dans le présent et dans le passé, réel sans être actuel, idéaux sans être abstrait, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée. Et notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne l'était pas entièrement, s'éveille, s'anime, en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée.
Extrait du tome 7 de La recherche du temps perdu de Proust, Le temps retrouvé, lu par Denis Podalydès aux éditions Télém. L'œuvre fait partie des livres qui ont changé votre rapport au monde, Eva Illouz. Ce volume-là a changé votre rapport au temps, bien après sa lecture, et le reste de l'œuvre, votre rapport au désir. Commençons par le temps, si vous le voulez bien.
Oui, enfin, c'est assez simple. Enfin, vous savez, dans le dernier volume, c'est le volume où Proust, enfin, où le narrateur, pardon, comprend le temps qu'il a perdu et qu'il va rattraper en créant son œuvre. Et pour moi, ça a été véritablement une révélation, de la même façon que le narrateur a une révélation, c'est une révélation, c'est une épiphanie laïque, pas religieuse. Et ça veut dire, si vous voulez, que c'est une forme d'assesse de l'existence. L'idée que il y a du temps qui est perdu et du temps qu'on retrouve et du temps qu'on gagne aussi. Et cette assesse, il la trouve, et je la trouve aussi, dans le travail, dans la sublimation de l'expérience et de l'existence par des idées et par une œuvre. Voilà, donc pour moi, ça a été vraiment une un moment clé, je dirais, de ma vie. C'est d'ailleurs aussi une idée religieuse, hein, cette idée qu'on ne doit pas perdre son temps.
Mais comment est-ce qu'on sait qu'on ne perd pas son temps ? C'est difficile de faire un équilibre entre justement s'abstraire du monde pour travailler sur son œuvre, par exemple, et puis fréquenter son prochain. Parce que nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de voir les autres. C'est triste, une vie sans aucune autre humanité que soi.
Non, mais je crois qu'on le sait.
On le sait ?
Je crois qu'on sait. Je ne suis surtout pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour perdre ou gagner son temps. Chacun le trouve ou le perd comme il veut. Mais je pense qu'en nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, on sait qu'on perd son temps. On sait qu'on perd son temps des soirées inutiles. On le sait. Et donc c'est un retour sur soi-même. C'est pas, je veux prêcher personne, à personne. Et donc c'est un retour sur soi-même qu'il faut faire.
Et le désir, alors, dans l'œuvre de Proust, Eva Illouz, vous qui êtes une sociologue de l'amour.
Alors, le désir, c'est un des grands thèmes de Proust. Et ce que je trouve passionnant dans son travail, c'est que c'est un désir à la fois amoureux, classique, et un désir social. Et je crois que... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai lu Proust. C'est que chez lui, le désir, c'est une machine extrêmement forte, mais qui fonctionne un peu sur du vide et qui fait travailler un peu la psyché sur du vide. Et j'en ai gardé une certaine méfiance, à la fois intellectuelle et personnelle, vis-à-vis du caractère impérieux du désir qui se vit dans l'urgence. Et alors évidemment, on ne peut pas ne pas reconnaître la puissance du désir. C'est une machine qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais souvent, cette machine me semble être comme une voiture qui est bloquée dans un sillon plein de boue. Et on appuie de toutes nos forces sur la pédale en essayant d'en sortir, mais on n'y arrive pas. On n'entend que le bruit de la voiture. Donc c'est un peu... Alors je ne sais pas si cette métaphore est particulièrement heureuse.
Une sorte de captivité.
C'est une sorte de captivité, mais c'est aussi une façon de rester sur place, en fait. C'est, on voudrait bouger, mais en fait, le désir nous immobilise. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire à propos du désir. Mais chez Proust, il y a aussi le désir social, qui est très fort. Et l'apprentissage du narrateur, c'est que ces gens qui sont lointains et qui sont parés de prestige... se révèlent au fond être des êtres comme les autres. Ils sont vains, ils sont fragiles, ils sont vulnérables, ils sont juste comme les autres.
À l'apprentissage de la médiocrité aussi.
Oui, tout à fait. Mais pour moi, donc, le désir amoureux et le désir social sont finalement faits un petit peu de la même matière. Et ils s'accommodent tous les deux très bien de la distance. Ils se déploient très bien dans la distance ou dans l'absence, beaucoup mieux que de la proximité. Et au fond, il me semble que quand Proust parle ou réfléchit au désir social, alors sans être véritablement égalitaire, je crois que ce que Proust nous apprend, c'est que finalement nous sommes tous égaux dans notre médiocrité, dans notre humanité.
J'ai à côté de moi vos menaçants et passionnants ouvrages sur l'amour, la fin de l'amour et pourquoi l'amour fait mal. Et j'appelle tout de suite Pierre Bourdieu à la rescousse.
Quand je dis il y a 6% de fils d'ouvriers à l'ENA, il y a des gens qui font comme si je disais « et c'est bien comme ça ». Bon. Ou d'autres qui font comme si je disais « et c'est affreux ». Bon. En fait, le sociologue est quelqu'un qui dit « il y a 6% de fils d'ouvriers à l'ENA ». Bon. Moi, j'établis, et ensuite, ayant établi ce fait, j'essaie de décrire les mécanismes qui font que c'est comme ça, et pas autrement.
Pierre Bourdieu, au micro de Marie-Odile Monchicourt en 1989 sur France Inter. Il est celui qui vous a fait comprendre, Eva Illouz, la vision de l'amour dépeinte par Albert Cohen dans Belle du Seigneur, l'idée que même dans l'amour, il y avait des relations de pouvoir.
Alors oui, la lecture de Belle du Seigneur a été m'a saisie.
Vers 18 ans.
Oui, tout à fait, oui. M'a saisie puisque j'avais une idée très à l'eau de rose de relations amoureuses. Hein. J'en étais restée à Jane Austen. Et puis, ce roman met en scène l'amour comme une relation de pouvoir. Et pas seulement de pouvoir, en fait, Albert Cohen, bien avant Bourdieu, spécifie en fait ce que Bourdieu appellera plus tard le mécanisme de la distinction, puisqu'il dit que Ariane, la sotte, l'amoureuse, la grande amoureuse, croit qu'elle aime Solal pour ce qu'il est. En fait, elle l'aime parce qu'il parle de Bach et de Schubert et de Kafka, et elle croit qu'elle l'aime quand il fait référence à ses noms parce que ça montre qu'il a une âme élevée, mais pas du tout d'idylle. Ça veut dire tout simplement qu'il appartient à la bonne classe sociale. Donc c'était une analyse extraordinairement sociologique que j'avais pas bien compris, j'avais été saisie par l'analyse. Et c'est quand je découvre Pierre Bourdieu 2 ou 3 ans plus tard que j'ai pu faire le parallèle entre les deux. Et je pense que c'est à cause et d'Albert Cohen et de Pierre Bourdieu que je suis devenue sociologue.
Madame Bovary aussi a joué un rôle.
Madame Bovary a joué un rôle fondamental. J'ai toujours peur d'être Madame Bovary. Je pense que...
C'est un très bon garde-fou.
Les femmes de ma génération doivent toutes avoir peur d'être Madame Bovary. Mais en même temps, une partie du bovarisme vit en chacune de nous.
Eva Illouz, il y a aussi dans votre parcours, dans ce qui a joué un rôle déterminant, la théorie féministe. Et vous citez à ce sujet la traductrice Bérangère Viénot. Alors j'aime beaucoup cette citation. « Mon expérience de la vie de femme, c'est que la première moitié, c'est compliqué parce qu'on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Et la seconde moitié, c'est compliqué parce qu'on comprend exactement tout ce qui nous arrive. » Cela a été votre cas.
Ah oui, ça a été absolument mon cas, oui, oui.
Malattia, oh, di terrore. Di sete o di fame, o di depressione, di ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, di male d'amore o un colpo di sole.
I nostri giorni d'Andrea Laszlo De Simone sur France Inter, toujours en compagnie d'Eva Illouz.
L'embellie. Eva Bester.
Maintenant, tu vois, je peins pour mon plaisir.
Ah, parce qu'avant, tu peignais pour le plaisir des autres ?
Peut-être.
L'autre soir, j'ai rencontré Bertillon. Il veut t'acheter deux tableaux.
Oui, ça fait 3 ans qu'il dit cela.
Oh, c'est ta dernière toile ?
Ah oui, oh, tu sais, c'est juste une esquisse. Mais tu ne l'aimeras pas, comme les autres. Après tout, c'est peut-être toi qui as raison.
Encore un coin d'atelier ? Mais c'est fou ce qu'il en a des coins, ton atelier.
Ouais, tu pourras en aimer un pour changer.
1984, adaptation d'un roman de Pierre Bost intitulé « Monsieur l'Admiral va bientôt mourir », le film « Un dimanche à la campagne » de Bertrand Tavernier, l'un des deux films que tout le monde devrait voir selon vous, Eva Illouz. Nous sommes en 1912 et la fougueuse Irène, campée par Sabine Azéma, rend visite à son père, veuf, peintre incarné par l'excellent Louis Ducreux. C'est un bijou de délicatesse ce film.
Ah, c'est un film merveilleux. Je trouve que c'est presque un film proustien.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il contient tout, en fait.
Les couches de temps.
Il y a tout, exactement. C'est un vieil homme qui est au centre de ce film et qui reçoit un dimanche à la campagne, donc, son fils, Gonzague, qui est dans un mariage très bourgeois et très conventionnel. Et on sent que le père s'ennuie avec son fils. Puis cet ennui mortel est interrompu par l'arrivée de sa fille, Irène, qui est jouée par la magnifique Sabine Azéma, et qui apporte avec elle de la fougue et une vitalité énorme, aussi une sorte de tristesse qu'on sent à peine. Mais on voit tout de suite la différence entre Irène et Gonzague, son frère, parce qu'elle est peu conventionnelle, elle est libre, c'est vraiment une femme libre, et elle paye le prix aussi de sa liberté. Et donc il y a le thème de la famille qui est posé de façon absolument remarquable, avec des moments poignants où le fils sent qu'il n'est pas tellement aimé. Et donc, si vous voulez, c'est surtout les manquements, les défaillances de la famille. Mais il y a aussi le thème de l'œuvre, puisque Monsieur l'Amiral est un peintre du dimanche, c'est un peintre respecté. Mais ce n'est pas un grand peintre. Et ce n'est pas un grand peintre parce qu'il n'a pas eu le courage. Il n'a pas eu le courage de lui-même, finalement. Le courage que sa fille a d'être elle-même. Et la fin du film est absolument magnifique parce que le père et sa fille font une virée en voiture. Ils arrivent dans une guinguette. Ils dansent ensemble et le père se compare en quelque sorte à Moïse. À qui on a promis une terre, mais qui sait désormais qu'il n'entrera pas dans cette terre. Et je pensais qu'il y avait quelque chose d'indécidable dans cette façon de voir sa vie. C'est à la fois une réussite magnifique de voir la terre qu'on nous a promis, mais c'est une douleur insurmontable de ne pas pouvoir y rentrer.
Et on le sent absolument tout au long de ce film magnifique. Il y a un autre film que vous affectionnez, Eva Illouz, et recommandé aux auditeurs, c'est Patterson de Jim Jarmusch avec Adam Driver, Goldshifteh Farahani. Patterson, c'est un chauffeur de bus poète qui vit à Patterson, dans le New Jersey, la ville de William Carlos Williams et d'Allen Ginsberg, aujourd'hui en décrépitude. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un film sur des gens très modestes, très ordinaires, mais qui embellissent leur vie avec de l'art, en fait. Lui est poète et il fait des poèmes qui sont très, très simples, comme les poèmes de William Carlos Williams. Vous connaissez sans doute ce poème sur les prunes, où il disait « J'ai mangé les prunes qui étaient dans la boîte et que probablement tu gardais pour le petit déjeuner. Pardonne-moi, elles étaient délicieuses. » Tellement sucrée et tellement froide. Voilà, c'est tout le poème. Et en fait, je trouve que c'est un hommage à la vie quotidienne, ce film. Et à la capacité de certains gens de rendre belle cette vie quotidienne, puisque sa femme aussi fait des gâteaux magnifiques.
Et des tableaux de son chien.
Exactement. C'est un hommage à la vie ordinaire et aux gens ordinaires.
Et j'ai appris en préparant cette émission que les poèmes écrits par Patterson dans le film sont signés Ron Padgett, l'un des poètes contemporains préférés de Jim Jarmusch. Eva Illouz, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir dans votre vie. Et vous avez eu cette réponse. J'aimerais me dire que j'aurais été irremplaçable pour certains. J'ai conscience de la vanité qu'on peut entendre dans une telle affirmation. Mais accomplir des relations sociales, c'est devenir irremplaçable dans ces relations. Et vous ajoutez, sur le plan intellectuel, j'aimerais pouvoir changer le vocabulaire de l'intériorité.
Alors oui, sur le plan personnel, comme je vous l'ai dit, j'aimerais que les gens que j'ai aimés se souviennent de moi comme étant irremplaçable. Et sur le plan intellectuel, ce que j'aimerais accomplir, c'est nous aider à réfléchir à nos émotions et à notre intériorité avec une grammaire et un vocabulaire différents et nouveaux. Je voudrais remplacer la psychologie, si vous voulez. Puisqu'il me semble que la psychologie nous fournit aujourd'hui l'arsenal, l'outillage essentiel pour réfléchir à cette intériorité. Alors, j'aimerais pas véritablement la remplacer, mais j'aimerais qu'il y ait aussi un autre vocabulaire. Pour la compléter, exactement. Alors, le livre que je viens de publier aux éditions Premier Parallèle essaye déjà de faire ça. J'en ai un autre qui fait ça de façon encore plus systématique.
Lequel ?
C'est un livre qui paraîtra dans un an et demi chez Gallimard. Voilà.
Il y a un engagement de fin d'émission que je demande à tous les invités. Eva Illouz, vous avez répondu, je tiens très bien les promesses vis-à-vis des autres, mais très peu vis-à-vis de moi-même. Alors, pour finir, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous recommandez de beau aux auditeurs. C'est le poème One Heart de la poétesse et écrivain américaine Elizabeth Bishop, poème dans lequel elle médite sur la perte. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous le lisiez dans la traduction d'Alix Cléo-Roubeau, Linda Orr et Claude Mouchard.
Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Tant de choses semblent si pleines d'envie d'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. Perds chaque jour quelque chose. L'affolement de perdre tes clés, accepte-le, et l'heure gâchée qui suit. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Puis entraîne-toi, va plus vite, il faut étendre les pertes aux endroits, aux noms, aux lieux où tu fis le projet d'aller. Rien là qui soit un désastre. J'ai perdu la montre de ma mère, la dernière ou l'avant-dernière de trois maisons aimées. Parti. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu deux villes, des jolies villes, et plus vastes des royaumes que j'avais, deux rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là de désastre. Même en te perdant, la voix qui plaisante un geste que j'aime, je n'aurais pas menti. À l'évidence, oui, dans l'art de perdre, il n'est pas trop dur d'être maître. Même s'il y a là comme, écris-le, comme un désastre. Alors c'est un poème autobiographique de la grande poète américaine Elizabeth Bishop, et qu'elle a écrit en 1976. Et elle venait de se séparer de sa compagne. À chaque fois, il y a une inflexion différente sur la notion de perte, qui est égarer quelque chose, un deuil, ou bien une défaite. Et la vie qu'elle décrit, le projet qu'elle décrit ici, c'est la tentative, l'art, de maîtriser la perte. Et ce qui est très beau pour moi dans ce poème, c'est que tout le poème donne le sentiment qu'il y a une fausse auto-maîtrise. Et en fait, elle fait ce que on essaye tous de faire, c'est-à-dire de garder notre sang-froid et de ne pas trop montrer notre souffrance et de rester maître de nous-mêmes. Et ce n'est que dans le dernier vers, deux mots avant la fin, entre parenthèses, elle dit « écris-le ». Écris-le, c'est-à-dire que elle n'arrive pas à l'écrire, mais elle se force à l'écrire. Parce que là, elle a vraiment mal. Et c'est simplement là qu'on comprend qu'elle a mal. Écris-le comme pour dire « force-toi ». Et c'est dans ce mouvement où elle essaie de maîtriser sa perte, la perte de la femme aimée, sans y parvenir, qu'on voit la brèche et la fissure.
C'est une très belle analyse de ce poème et de transformer la tristesse et le manque de contrôle absolu en quelque chose, en un poème par exemple. Eva Illouz, merci beaucoup d'être venue dans l'émission.
Je vous remercie beaucoup.
Je rappelle que votre dernier ouvrage, Les émotions contre la démocratie, est sorti aux éditions Premier Parallèle en octobre dernier. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre semaine aura le charme d'un palmipède empourpré refusant la régence de son royaume. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.